La digue dentaire, ce n'est vraiment pas ce que vous pensez. Bonjour à tous et à toutes pour cette nouvelle émission de Génération sur Radio G. Génération, c'est le programme qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans sur l'agglomération angevine. Dispositif jeunesse, prévention des risques, accompagnement, orientation ou emploi, vous trouverez des réponses aux questions que vous vous posez. Mais Génération donne aussi la parole aux jeunes, comme à ces 6 étudiants de l'ESTUA du campus de Cholet, qui vont nous présenter leur projet d'études appelé « Balance ton shoot ». Dans l'émission d'aujourd'hui, nous aborderons également les risques liés aux jeux d'argent, grattage ou paris en ligne avec Alia. Et nous découvrirons ce que propose la Garantie Jeune avec la Mission Locale Angevine, la MLA 49. Mais pour commencer, ce sont les Noxambules qui vont nous parler de contraception et nous expliquer ce qu'est une digue dentaire. Bonne écoute à tous!
Salut les Nox!
Salut! Bah, je vois que vous nous connaissez, comment ça va? Et puis je peux vous renseigner en quoi?
Ouais, ça va! On vous a déjà croisé et ce soir on avait une question bien précise.
Laquelle?
En fait, on supporte très mal les capotes tous les deux et on aimerait bien savoir ce qui existe comme autre type de contraception.
Bon, il y en a plein, mais après ça dépend de vos pratiques. Quand vous parlez de préservatif, vous parlez de préservatif interne, externe ou les deux?
On parle du préservatif masculin, mais c'est quoi l'autre?
Bah tu vois, ça c'est le préservatif interne. Il est plus connu sous le nom du préservatif féminin. Il a l'avantage d'être en nitrile, tu vois, donc il n'entraîne pas d'irritation ou d'allergie comme le latex. Il est très large, donc on ne se sent pas à l'étroit dedans. Tu peux l'insérer 10-15 minutes avant le rapport afin que le préservatif colle aux parois de ton vagin grâce à la chaleur. Et puis tu peux le garder pendant 8 heures, donc c'est plutôt pratique si tu ne veux pas être coupé pendant l'acte sexuel ou même être certaine d'être protégée. Et en plus, il est beaucoup plus résistant, tu vois. Ça craque donc moins.
Ouais, c'est vrai que ça a l'air plus simple, du coup.
Ça dépend de ce que tu recherches, mais ça peut, ouais. Comme conseil pratique, le préservatif interne, il s'emploie sans ajout de lubrifiant, parce qu'il l'est déjà au préalable. Puis il est également recommandé pour les rapports anaux.
Et pour les rapports anaux, justement, il existe autre chose que les capotes pour se protéger des IST?
Pour les rapports bucco-anaux, il y a la digue dentaire que tu places entre la bouche et l'anus de ton ou de ta partenaire. Tu peux fabriquer une digue dentaire en coupant un préservatif en deux, comme ça. Puis la digue s'utilise aussi pour les cunnilingus.
Ah ouais, cool, c'est bon à savoir si on veut expérimenter d'autres pratiques. Et nous concernant, tous les deux, on s'est déjà fait dépister et on aimerait choisir un contraceptif moins contraignant au quotidien.
Vous connaissez quoi comme moyen de contraception?
On m'a déjà parlé de la pilule, mais j'ai un peu peur de l'oublier.
Si tu l'oublies, il y a toujours la pilule d'urgence. Si la pilule elle est oubliée régulièrement, ça prouve que c'est peut-être pas la bonne contraception pour toi. En effet, c'est un contraceptif qui demande de la régularité et un certain rythme de vie pour ne jamais l'oublier. Mais tu sais déjà si tu préfères avoir un contraceptif avec ou un contraceptif sans hormones?
Je pense pas avoir de préférence, je veux juste avoir un maximum d'informations, quitte à tester plusieurs choses et voir ce qui correspond mieux à mon corps et mon humeur.
Alors, avec hormones, il existe l'implant qui se met dans le bras pendant 3 ans. Mais après, tu peux l'enlever à tout moment hein, si tu le supportes pas. Sinon, il y a l'anneau à insérer une fois par mois dans ton vagin. Une fois en place, tu dois pas le sentir. Puis sinon, il y a le patch que tu colles chaque semaine, sauf la semaine de tes règles.
Et ta pote, elle nous avait parlé du stérilet. J'avais compris qu'il était hormonal lui aussi, non?
Ouais, les stérilets, ce sont des dispositifs intra-utérins. Il en existe deux sortes, celui avec et celui sans hormones. Celui sans hormones, il est en cuivre, mais dans les deux cas, les dispositifs intra-utérins peuvent être en place pendant en moyenne 5 ans.
D'accord, et du coup, c'est le seul contraceptif sans hormones?
Non, il y en a différents types. Il y a les différentes applications de spermicine, en crème, en gel ou en ovule à insérer au fond du vagin, avant chaque rapport. Pour être efficace, il faut les allier à la cape cervicale ou au diaphragme, qui eux s'insèrent également dans le vagin. Selon l'association des contraceptifs, il y a différentes durées d'application et d'efficacité.
Ok, d'accord, ça a l'air un peu plus complexe tout ça. Où est-ce que je peux retrouver des infos à ce propos?
Tu peux aller au planning familial, au centre Flora Tristan, au CHU, ou consulter un ou une gynécologue, ou même une sage-femme.
Et pour moi, j'aimerais avoir un petit rôle là-dedans quand même. J'ai déjà entendu parler de la méthode thermique qui consiste à augmenter la température au niveau des testicules grâce à un sous-vêtement adapté.
Ouais, c'est une méthode qui existe si on l'utilise convenablement. C'est-à-dire porter le caleçon 15 heures par jour pendant une longue durée. Et sur le même principe, il y a les anneaux aussi qui te remontent les testicules afin d'augmenter leur température et d'inhiber la spermatogénèse. Puis après, en plus de toutes ces options, il y a des contraceptions définitives qui sont la vasectomie et l'hystérectomie. Mais celles-ci, contrairement à celles dont on vient de parler, sont irréversibles si un jour vous souhaitez avoir des enfants.
Eh bien, merci pour toutes ces infos. On va pouvoir en discuter entre nous avant de trouver la contraception qui nous convient. En attendant, on peut prendre le préservatif interne que tu nous as montré pour essayer.
Bah ouais, carrément. Puis revenez quand vous voulez. Bonne soirée à vous deux.
Merci beaucoup, à toi aussi. Topette.
Et c'est l'heure de la petite info en plus par les Noxambules.
Alors pour visualiser la digue dentaire et le préservatif interne dont on vous a parlé, vous pouvez aller sur notre page Insta, regarder nos tutos.
Et d'ailleurs, si on a envie de se renseigner encore plus ou d'en apprendre encore plus sur les Noxambules et vos actions, on peut vous retrouver où ?
Alors dès que ça sera possible, les mercredis et jeudis soirs dans le centre-ville d'Angers. En ce moment, on fait des actions dans les lycées et maisons de quartier. On est actifs sur nos pages Facebook et Instagram qui s'appellent les Noxambules. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des besoins.
Katie Romé, bonjour. Vous êtes conseillère à la MLA, la mission locale angevine, et vous assurez notamment les missions d'accompagnement de la Garantie Jeune, c'est bien ça ?
Oui, bonjour, tout à fait. Depuis 3 ans, je suis conseillère Garantie Jeune.
Camille, toi tu as 23 ans, et tu es désormais en alternance comptabilité, et tu vas nous témoigner justement de ton expérience, de ton accompagnement dont tu as pu bénéficier avec cette Garantie Jeune.
Oui, tout à fait.
Katie Romé, la Garantie Jeune, pour nos jeunes auditeurs qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est au juste ? Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Qu'est-ce qu'elle propose aux jeunes ?
Alors, la Garantie Jeune, c'est un dispositif d'État où le jeune signe un engagement d'un an pendant lequel il va bénéficier du coup d'un accompagnement à l'insertion pour l'emploi de manière intensive. Donc ça se déroule en 2 temps. La première partie, ils font 15 jours de collectif.
Ouais.
Pendant lesquels il va y avoir des ateliers qui vont être obligatoires sur les techniques de recherche d'emploi, donc élaborer des CV, des lettres de motivation, bénéficier de simulations d'entretien, les relations entreprises. On va pouvoir aussi aborder ou participer à des ateliers de confiance en soi avec une art thérapeute qui intervient de l'extérieur.
Du coaching,
vraiment. Ils vont avoir aussi accès à tous les outils Internet. On va apprendre aussi, leur faire prendre conscience de leurs compétences. Mmh. Qu'est-ce qu'une compétence ? Comment on la met en valeur sur un CV ? Les expériences transversales. Qu'est-ce que d'une expérience personnelle, on peut te mettre en...
À profit pour le professionnel, en fait.
Voilà, côté professionnel. Ensuite, on a aussi beaucoup de bénévoles.
Ouais.
Donc, ce sont en règle générale des personnes retraitées qui viennent animer des ateliers sur les codes en entreprise, les contrats de travail. Donc, on va pouvoir aussi leur apprendre à lire un contrat de travail et une fiche de paye.
Donc là, on est après les 15 jours de collectif.
Oui.
D'accord, parce qu'au total, ça dure 12 mois ?
C'est 12 mois, donc c'est vraiment sur les premières semaines où on fait venir un collectif, où là, ils participent à ces ateliers, et ensuite, on va plus appeler ça des ateliers à la carte, c'est-à-dire que le jeune, à la fin de ce collectif-là, va bénéficier d'un accompagnement individuel, vraiment ciblé sur ses besoins. Donc les ateliers à la carte viendront en lien avec les besoins repérés, soit par le jeune, soit par le conseiller.
Et sous certaines conditions, les jeunes peuvent bénéficier d'une petite allocation financière.
Alors, c'est pas sous condition, ça fait partie du contrat.
Dans tous les
en
cas.
Fait. Voilà. Dans tous les cas, ils bénéficient d'une allocation qui avoisine les 500 euros par mois.
D'accord.
Mais pour lequel, justement, ils ont cet engagement d'être investis à part entière dans leur insertion professionnelle.
Ouais.
C'est-à-dire que si un jeune reste 2 mois sans donner de nouvelles à son conseiller ou sans enclencher la moindre démarche professionnelle ou de recherche de stage afin d'approfondir son projet professionnel ou d'entrer en formation qualifiante, le jeune peut avoir des sanctions. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord un entretien de régulation pour lequel on va rappeler les objectifs de la Garantie Jeune. Et ensuite, ça peut passer en commission départementale, où là, le jeune peut avoir soit une suspension d'allocation, soit être exclu du dispositif.
D'accord, ouais. Cette allocation-là, c'est un plus. C'est pas forcément... Vous venez pas à la mission locale juste pour bénéficier de ça. C'est simplement pour vous aider.
Voilà, c'est vraiment une aide à la mobilité, à la recherche d'emploi, pour pouvoir soit s'acheter des vêtements si on a un emploi qui nécessite une tenue vestimentaire particulière, s'il y a besoin de louer un véhicule pour aller sur son lieu de travail ou sur son lieu de stage. La location vient vraiment conforter ça, en tout cas.
Donc la garantie jeune, c'est un accompagnement renforcé, individualisé, même s'il y a un petit peu de collectif. Est-ce que tout le monde peut y prétendre ? Tous les jeunes peuvent le faire ?
Oui, c'est un droit.
Il y a peut-être des conditions ? Il y a un âge limite ?
Faut pas dépasser 26 ans.
D'accord, donc 18-25, dès qu'on est dans la vie active, en fait, on peut...
Tout à fait.
On peut le faire. On va bientôt entendre ton témoignage, Camille, hein, toi qui as pu bénéficier justement de cette garantie jeune, et ça t'a beaucoup apporté, il me semble. Mais avant ça, Katie, est-ce que vous pouvez nous dire... Comment font les jeunes justement pour déclencher ce dispositif ? C'est un rendez-vous ? C'est un appel ? C'est
alors,
un formulaire ?
Le jeune doit s'inscrire en mission locale, être accueilli en rendez-vous par un conseiller qu'on appelle un conseiller d'antenne,
ouais.
Donc qui est en référence avec son quartier ou sa ville de résidence. Après plusieurs entretiens, il rentre dans un contrat qu'on appelle le PASEA et ensuite il pourra bénéficier ou demander, faire la demande auprès de son conseiller d'entrer en garantie jeune.
D'accord. Et du coup là, pendant 12 mois, c'est parti pour un an avec ce... C'est un contrat qui est vraiment signé ?
Oui, oui, c'est un contrat, c'est un CERFA, hein, c'est un document d'État, un document officiel. Donc c'est en tripartite, c'est signé entre la mission locale, le jeune et l'État.
Petite question pratique. Parce que 500 euros, bon, c'est un coup de main, ça donne pas tout. Imaginons qu'un jeune veuille travailler en plus à côté, il peut le faire ?
Tout à fait.
D'accord.
La location est cumulable. C'est-à-dire qu'elle reste en intégralité quand le jeune a un salaire inférieur à 300 euros.
Camille, je te vois acquiescer depuis tout à l'heure à toutes les remarques, toutes les choses que met en avant Katie. Ça te parle, hein, tout ça ?
Oui, 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 tout à fait.
Alors, je rappelle donc que tu as 23 ans, que depuis... Peu, alors ça fait quelques semaines, quelques mois, tu es en contrat d'alternance comptabilité.
Oui, c'est ça.
Et toi, justement, tu as bénéficié de l'accompagnement de la garantie jeune. C'est quoi ton parcours ? Comment tu t'es retrouvé à la mission locale ? Comment tu t'es retrouvé à devoir déclencher ce dispositif ?
Alors moi, ça a commencé en 2019. En juin 2019, je me suis inscrite à la mission locale angevine.
Ouais.
Après, par derrière, du coup, en septembre 2019, j'ai commencé la garantie jeune. Donc avec Katie.
Ouais.
Moi, j'avais mon logement, j'avais tout ça. Donc j'avais besoin de reprendre les choses en main côté professionnel pour pouvoir... Bah...
T'étais sans emploi en fait à ce moment-là.
C'est ça, j'étais D'accord. sans emploi. Après, donc la garantie jeune m'a permis de progresser professionnellement, mais aussi personnellement. Les coachings pour la confiance en soi, notamment, ça aide énormément. Donc moi, ça m'a permis de relever la tête et d'avancer dans tous mes projets.
Professionnellement, tu avais quelle qualification avant d'arriver à la MLA ? Tu avais un des diplômes ?
Oui, j'avais un bac pro gestion administration,
ouais.
Que j'avais obtenu en 2017. Derrière, j'avais pas repris d'études, j'avais pas, voilà, je travaillais comme je pouvais.
D'accord, donc tu te retrouves à la mission locale, tu rencontres Katie, qui maintenant vous connaissez depuis quelques temps, qui t'a beaucoup apporté. Elle t'a suivi. Est-ce que tu peux décrire aux jeunes auditeurs de Génération à quoi ça ressemblait ton accompagnement ? Tu t'es retrouvé dans beaucoup de choses de ce qu'a dit Katie avant. Mais il y a quoi ? Il y a des immersions, il y a des entretiens, il y a des ateliers ?
Oui, tout à fait. Oui, bah, déjà, dans les 5 semaines de collectif, donc on a rencontré des personnes retraitées qui étaient auparavant des patrons, des chefs d'entreprise, et qui nous a beaucoup aidés dans les entretiens professionnels qu'on peut rencontrer.
Des personnes
quotidien.
Qui connaissent le milieu de l'entreprise,
c'est
de la
ça.
Vie active. Ouais.
C'est ça, et qui peuvent nous aider à justement mettre en valeur nos compétences, comment se comporter en face d'un chef d'entreprise, comment étudier les contrats de travail, les fiches de paye,
D'accord.
Voilà, dans les CV, les lettres de motivation, tout ça.
Et donc tu as réalisé des immersions professionnelles également ? T'as vécu des périodes de stage, par exemple, en entreprise ?
Oui, alors j'ai fait un stage justement au sein de la mission locale
ouais.
pour découvrir le métier de conseiller en insertion professionnelle.
Ouais.
Et après, au-delà de ça, moi, c'était plus des jobs. J'ai travaillé. J'ai fait qu'un seul stage. Après, tout le reste, c'était des contrats de travail.
J'allais te demander s'il y avait une expérience plus que les autres qui t'avait marqué, mais je crois avoir la réponse puisqu'on en a parlé un petit peu avant. C'est cette période de stage hein, qui t'a éveillé des vocations bien précises.
Oui, tout à fait. De pouvoir découvrir le métier de conseiller en insertion professionnelle, c'était une grande chance pour moi parce que
J'ai été très perdue au niveau professionnel de mon côté.
Ouais.
Je savais que je voulais aider les personnes, je savais que je voulais être dans le social, tout ça, mais je ne savais pas quoi encore.
Ouais.
Je ne savais pas quel métier exactement, dans quoi m'orienter. Mais du coup, là, ça m'a permis vraiment de savoir que c'était ça que je voulais et de pouvoir accompagner des jeunes et leur donner possibilité d'avancer dans leur projet personnellement et professionnellement, c'est que bénéfique.
Donc, est-ce que tu peux dire aujourd'hui que la garantie jeune, le suivi dont tu as pu bénéficier, t'a vraiment été bénéfique, justement ?
Oui, tout à fait.
Totalement. Tu le recommanderais à des jeunes qui nous écouteraient, là, par exemple, et qui seraient aussi en questionnement, en hésitation par rapport à leur parcours, ou qui se sentiraient peut-être un peu coincés dans leur situation ?
Oui, totalement. Totalement. Ouais. Je recommande 100%. Parce que ce soit personnellement ou professionnellement, c'est franchement que du bonus et que du plus. Et on est très bien accompagné, très bien soutenu et il n'y a aucun problème pour ça.
Katie, est-ce que tout ce que dit Camille est vrai ? Est-ce qu'elle représente bien l'âme de cette garantie jeune, de tout ce qu'elle peut apporter ?
Oui, parce que Camille a eu un parcours un peu atypique. Elle évoquait rapidement tout à l'heure, on ne va pas rentrer dans le détail, mais un peu des soucis de santé qui ont beaucoup freiné son insertion, qui moralement aussi, Camille a eu besoin à des moments de soutien, des moments où elle a baissé les bras sur cette année de parcours. Voilà, juste un coup de fil, Camille, Katie, je ne me sens pas bien. Écoute, passe, on essaye de se voir, on se voit en entretien, on voit ce qu'on peut faire, on en discute. Donc ça aussi, c'est le fait que le jeune ne soit pas seul avec sa problématique ou son découragement, parce que parfois, ils peuvent aussi envoyer plein de candidatures. Les réponses sont négatives. Ils ont aussi connu... Enfin, Camille a pu aussi connaître cette période de Covid, confinement. Donc, situation très compliquée, pas d'immersion dans les entreprises, pas de visite d'entreprise, pas d'entretien. Enfin, donc, un moment où ces jeunes-là se sont retrouvés seuls, isolés, chez eux, enfermés. Donc nous, on a continué à travailler, même si on était en télétravail, c'était leur passer un coup de fil, leur demander si tout allait bien. Enfin voilà, toujours garder l'échange. Et en fait, je pense que c'est aussi ce qui a aidé Camille à certains moments où ça pouvait être plus compliqué, de se dire « non, je ne suis pas toute seule et je sais que je peux compter sur ma conseillère, l'appeler et elle sera là pour... En tout cas, même pour parler, même si ce n'était pas pour faire avancer.
Donc, là, on est bien d'accord que la garantie jeune, c'est un peu plus qu'une simple allocation. Il y a vraiment un côté suivi, personnalisé, un lien humain qui se crée et vraiment un accompagnement qui donne que du plus et qui donne du concret. Merci beaucoup, Camille et Katie.
Merci à vous.
Merci.
Venue sur Radio G pour présenter la garantie jeune. Je rappelle juste que Camille, toi, tu en as profité du coup depuis septembre 2019.
Oui, c'est ça.
C'est ça. Et que vous, Katie, vous êtes conseillère à la mission locale pour affilier à cette mission, il me semble, de garantie jeune, depuis septembre 2018.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci
à vous.
Nous accueillons aujourd'hui Blandine, référente jeu de hasard et d'argent à Alia, l'association ligérienne d'addictologie. À Alia, vous recevez des personnes en difficulté avec des consommations de produits, mais on parle aussi d'addiction comportementale. Qu'est-ce que c'est, Blandine ?
Alors bonjour à tous. En fait, les addictions comportementales, ou ce qu'on appelle aussi les addictions sans substance, en fait, elles répondent à la même définition que les autres addictions. C'est-à-dire être dans l'incapacité à arrêter un comportement, et ce, malgré ses conséquences négatives. Aujourd'hui, on repère différentes addictions comportementales, le jeu pathologique, les troubles du comportement alimentaire, tout ce qui est cyberdépendance, les addictions au travail, addictions sexuelles, les achats compulsifs et même parfois les activités sportives.
Et le jeu pathologique, qu'est-ce que c'est ?
Alors, seul le jeu de hasard et d'argent, ce qu'on appelle les JHA, peuvent devenir des jeux pathologiques. C'est-à-dire avoir des conséquences négatives et parfois amener à la dépendance. Les conséquences négatives, elles sont souvent, dans un premier temps, financières. La personne perd de l'argent, parfois beaucoup d'argent, elle peut emprunter, faire des crédits, voler parfois. Mais nous rencontrons aussi beaucoup de personnes qui s'isolent dans le jeu, car elles ont perdu le contrôle. Elles perdent confiance en elles et s'enferment dans la honte et la culpabilité. Le JHA, lui, il répond à une définition bien précise. Il faut avoir systématiquement une mise de valeur. Et cette mise, elle est définitive, c'est-à-dire on ne peut pas la récupérer. On perd ou on gagne, et l'issue en dépend en totalité ou en partie du hasard.
Et du coup, en quoi jouer serait dangereux ?
Un joueur, il joue avant tout pour gagner, et gagner quoi ? De l'argent.
Elle tourne, la balle se promène, elle va s'arrêter. Aïe, 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 le million. Le million. Eh bien, c'est 100 000 francs, c'est une très très belle somme, Rachid.
C'est nul, je peux recommencer.
Non, ça n'est pas du tout la règle. C'est une seule fois 100 000 francs, c'est une très très belle somme. Vous allez en faire quoi?
Non,
s'il vous plaît.
Une fois, Rachid,
qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je fasse une fois pour avoir un million, c'est ça? Non, mais qu'est-ce qu'on comment on fait avec les notaires et les...
Non, mais laisse. Rachid est très très heureux, il vient de gagner 100 000.
Or, derrière l'organisation des jeux de hasard et d'argent, il y a toujours un opérateur. Cet opérateur, en fait, c'est une entreprise qui a pour but de gagner de l'argent et qui, elle, ne peut pas se permettre d'être dépendante totalement du hasard. Cette entreprise a donc organisé son fonctionnement pour récupérer de manière systématique un pourcentage des mises. Il faut donc toujours avoir en tête que les jeux de hasard et d'argent sont conçus de sorte que statistiquement et sur le long terme, les pertes, elles sont toujours supérieures aux gains. Il faut également savoir que certains types de jeux sont plus addictifs que d'autres, comme par exemple les paris sportifs, le poker ou les machines à sous. Le fait de jouer rapidement, souvent et avec un résultat immédiat, renforce le potentiel addictogène de certains jeux. Cela augmente la décharge d'adrénaline associée au fait de miser, de défier le hasard et de prendre un risque. Et c'est bien souvent cette recherche de sensations que l'on retrouve dans la conduite du jeu pathologique et sa répétition, elle peut mener à de l'addiction. Les JHA aujourd'hui, ils sont accessibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7 via des plateformes en ligne. Cette accessibilité continue, elle peut également pousser à jouer au-delà de ses propres limites. En plus de ça, la dématérialisation de l'argent contribue à déconnecter le joueur de l'argent qu'il dépense réellement. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'attendre la fin d'un match de foot pour parier que votre joueur favori mettra un but à la 17e minute. Vous pouvez faire ce pari en 2 secondes sur votre smartphone en plein milieu d'un cours d'histoire ou de philosophie. Et vous aurez la réponse de vos gains dès la 18e minute.
Mais alors, pourquoi les jeux d'argent sont interdits aux moins de 18 ans?
L'adolescence est une période où l'autonomie affective et financière, elle a toute sa place et où il est parfois difficile de demander de l'aide aux adultes. On sait aussi que le cerveau d'une personne de moins de 25 ans est toujours en construction. Les zones de capacité de discernement et de prise de décision du cerveau, elles sont en pleine mutation, elles ne sont pas encore matures. Voilà, c'est ce qui explique que les adolescents ne disposent pas des mêmes capacités que les adultes à se contrôler, à respecter les limites, ils sont globalement plus impulsifs. Et c'est ce qui rend plus vulnérables vis-à-vis des JHA et des addictions en général.
Tout à l'heure, Blandine, tu parlais des opérateurs de jeux. Mais qui sont-ils?
Alors en France, l'Autorité nationale des jeux, ce qu'on appelle l'ANJ, elle donne l'autorisation d'exercer à 4 types d'opérateurs. Les premiers et souvent les plus connus, ce sont les casinos physiques. Il y en a environ 200 en France. Ceux en ligne sont aujourd'hui interdits. Le PMU, Paris Mutuel Urbain, qui organise les courses hippiques, est le 2e opérateur. Le 3e, c'est la Française des Jeux, ce qu'on appelle la FDJ. Elle détient les lotos, des sites de paris sportifs et des jeux de grattage. Et les derniers opérateurs, sont tous les autres sites de paris sportifs. Il y en a 14 actuellement qui sont agréés par l'ANJ.
Alors comment est-ce qu'on peut faire pour repérer les sites légaux des sites illégaux de jeux?
Alors oui, c'est pas toujours très facile. En fait, un site internet de jeu légal est forcément avec un .fr. Si c'est un autre .org ou autre, ça veut dire que vous pouvez déjà vous poser des questions. Vous pouvez également vous rendre sur le site de l'ANJ qui dresse la liste des opérateurs agréés. Un site légal doit protéger les consommateurs les plus vulnérables. Donc il doit avoir de la publicité de prévention contre les addictions. Il doit permettre aux joueurs de se désinscrire facilement et surtout d'être interdit aux mineurs.
Et pourtant, on observe dans les publicités actuelles l'utilisation des codes sociaux impropres aux adolescents et aux jeunes adultes.
Et ouais, en effet, sans donner de nom d'opérateur pour ne pas faire de publicité, vous pouvez régulièrement entendre ou lire dans les médias.
Oui, grosse cote, gros gain, gros respect, le pari est plus fort quand on le vit ensemble, ou encore nous sommes les parieurs et ce qu'on aime, c'est gagner cash, ou bien avec de meilleures cotes, les émotions sont plus fortes.
Voilà, eh bien la publicité, elle survalorise les gagnants, et d'ailleurs elle ne parle que des gagnants. Elle renforce chez le joueur sa conviction qu'il peut gagner ou se refaire, alors qu'il sait que sur le long terme, ce sont toujours les opérateurs qui gagnent. La publicité montre une image héroïque du joueur. Il est respecté, adulé comme un dieu. Son gain valide la croyance en ses compétences. La dimension du hasard est quelque part presque effacée.
Est-ce que là, on peut faire un parallèle avec les jeux vidéo, qui du coup ne rapportent pas forcément d'argent, mais qui ont un petit peu les mêmes attributs addictologiques ?
Alors oui, on peut faire le parallèle. D'ailleurs, c'est la cyberdépendance F et fait partie des addictions comportementales. Et il faut aussi avoir en tête que de plus en plus de jeux vidéo proposent ce qu'on appelle des loot box, où du coup, on va acheter une boîte dans laquelle on ne sait pas quel type de joueur, de foot par exemple, on va pouvoir gagner ou quel type d'arme on aura. Et pour ça, il faut mettre de l'argent et parfois beaucoup d'argent.
D'accord, mais il y a quand même une certaine forme de plaisir puisque ces jeux font appel à ce qu'on peut appeler le cerveau reptilien. Je ne suis pas biologiste, mais je crois que c'est ça. Quelle est la frontière entre plaisir et comportement à risque addictif ?
Alors, quelle que soit la consommation de produits ou ce qu'on appelle avant tout les comportements addictifs, il y a toujours du plaisir à la découverte et puis après à s'inscrire un peu dans cette répétition autour de la consommation ou du comportement. Là où il commence à y avoir du déplaisir, c'est à partir du moment où les conséquences négatives sont bien présentes. Encore une fois, il peut y avoir des pertes d'argent, des insomnies, de perte de l'appétit, des décalages, une démotivation à aller au travail ou en cours. Et c'est à ce moment-là, du coup, on va pouvoir parler, nous, de dépendance.
Tout à l'heure, on disait que les jeunes étaient plus réceptifs à aller compulsifs par rapport à ces jeux d'argent, en tout cas, même aux jeux vidéo. Est-ce que dans les profils de personnes qui sont dans des comportements addictifs, c'est vraiment eux aussi qui sont souvent dans des comportements néfastes ?
Alors oui et non, c'est-à-dire que chez les publics jeunes, on est moins sous des formes de dépendance, on va être beaucoup plus dans l'expérimentation et la prise de risque. Donc les comportements néfastes, ils peuvent être liés à de la prise de risque, mais aussi à de la dépendance avec des publics un peu plus âgés.
D'accord, s'il n'y a pas un âge de prédilection pour tomber dans l'addiction en fait.
Non,
d'accord.
Il y a un ensemble de facteurs à prendre en compte qui sont de la personnalité de la personne et également de l'environnement dans lequel elle vit.
Socialement, par rapport au PMU, par exemple, au casino, on a un peu des images stéréotypées de joueurs. Ça se confirme ou pas ?
Alors, on ne rentre pas au PMU souvent sans y avoir été un peu accompagné. Souvent, il y a quelque chose de transgénérationnel ou de familial autour du PMU. Le casino, c'est encore un peu différent. Il y a quelque chose qui touche aussi à la géographie du lieu. Et souvent, ce sont les personnes qui habitent ou qui ont des maisons secondaires près des casinos qui vont avoir tendance à y aller un peu plus. Aujourd'hui, on sait que les publics jeunes vont être, eux, attirés principalement par les paris sportifs.
D'accord. Bon, je raconte un petit peu ma vie, mais j'ai un ami qui se met un challenge en ce moment. Il achète pour tant d'argent par mois des jeux à gratter pour voir s'il va toujours gagner ou pas. Par rapport à l'argent investi. Donc, a priori, les statistiques annoncées tout à l'heure se confirment. Est-ce qu'il y a un risque pour lui qu'il devienne addict ?
Alors oui, il y a toujours un risque à partir du moment où, si à un moment dans sa vie, il y a une fragilité liée à un événement de vie qui fait qu'il a repéré que le fait d'acheter des jeux de grattage pouvait le soulager ou lui faire plaisir dans quelque chose, oui, il y a un risque à ce moment-là de basculer. Après, le premier risque, c'est avant tout de perdre beaucoup d'argent. J'ai une personne que j'accompagne qui avait une fois acheté tout un rouleau entier de jeux de grattage chez son buraliste, donc qui avait mis plusieurs centaines d'argent, centaines d'euros dans ce rouleau entier. Et au final, elle a gagné 15 euros sur l'ensemble du rouleau. Donc il faut savoir que, voilà, il y a statistiquement, on le disait tout à l'heure, c'est toujours l'opérateur qui, lui, récupère l'argent.
Voilà, c'est une logique commerciale et il n'y a pas de hasard à ce niveau-là pour ceux qui vendent des tickets à gratter, donc attention. Hein. Si jamais on se sent difficulté, Blandine, ou qu'on a besoin de faire le point un petit peu sur notre situation, qu'on a des doutes, des questions, où est-ce qu'on peut retrouver Alia ?
Alors, vous pouvez nous retrouver tout l'ensemble de nos coordonnées de l'association sur alia49.fr ou sur la page Facebook de la consultation Jeunes Consommateurs.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On aura reconnu ce passage avec les Inconnus et leur mythique Le Million, Le Million. Pour écouter les précédents intervenants, il vous suffit de vous rendre sur le site de Radio G, donc radio-g.fr. de cliquer sur replay, puis de choisir Génération. Vous trouverez là tous les podcasts en libre écoute et à volonté gratuitement, évidemment. J'en profite pour remercier toute l'équipe des Noxambules qui vient assez régulièrement dans l'émission de Génération, mais également Katie et Camille de la mission locale angevine, la MLA 49 pour leur passage, et Blandine pour Alia, ainsi que Thierry qui devait enregistrer avec nous mais qui n'a pas pu à la dernière minute. Merci quand même pour le travail fourni. Je vous propose maintenant de découvrir un projet, le projet Balance ton shoot. C'est un projet de 6 étudiants dans le cadre de leurs études au campus de Cholet, ils sont à l'Estua, qui vise à sensibiliser aux violences faites aux femmes au travers de la photographie. D'ailleurs, les photographies, vous pouvez les découvrir sur leur compte Instagram Balance ton shoot. On les écoute tout de suite. Timélia, Thibault, bonjour. Vous êtes tous deux en troisième année de licence sciences sociales à l'université d'Angers, mais au campus de Cholet. Et vous êtes au cœur d'un projet avec 4 autres étudiants qui s'appelle Balance ton shoot et qui vise à sensibiliser les étudiants aux violences faites aux femmes au travers de la photographie. Bienvenue.
Merci.
Merci.
Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou expliquer à nos auditeurs en quoi consiste cette licence et pourquoi vous mettez sur pied un tel projet ?
Du coup, nous sommes en licence sciences sociales, parcours animation sociale, éducative, culturelle et de loisirs. Dans le cadre de notre troisième licence, on nous demande de mettre en place un projet. Donc, il y a des équipes qui se forment et du coup, il y a d'autres étudiants qui font d'autres projets. Et nous, on a décidé de se focaliser sur un projet qui parle des violences faites aux femmes et qui s'appelle du coup Balance ton shoot.
Donc, vous êtes 6 au total, c'est ça, Timélia ?
Oui, exactement, c'est ça. En fait, ce projet se déroule dans le cadre d'un cours gestion de projet, en fait, où on nous apprend toute la méthodologie de projet. Et par la suite, de par les affinités ou les discussions entre nous, nos expériences, nos parcours de professionnels, personnels, on est amené à former des équipes projet, finalement, et ensuite à décider de la thématique abordée ou du projet à mener.
Donc l'idée pour cette année finale de votre cursus scolaire, en fait, c'est de mettre sur pied un projet concret et avec des vraies choses à faire. Vous avez choisi le thème des violences faites aux femmes. Pourquoi ? C'est le contexte qui vous a poussé à choisir ce thème ?
Plusieurs raisons. Tout d'abord, oui, le contexte, mais aussi les expériences de chacun au sein du projet. Un membre a fait son service civique et a poursuivi aussi en stage dans un CIDFF, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Et un autre membre de l'équipe avait réalisé déjà un shooting photo sur la thématique des violences faites aux femmes. Donc voilà, on a poursuivi l'idée. Et on s'est tous mis d'accord sur...
Moi, c'est venu assez naturellement aussi.
D'accord. Bon, ça, c'est pour l'aspect genèse du projet. Maintenant, si on s'intéresse du coup au cœur du sujet, donc c'est Balance ton shoot qui fait évidemment référence, en tout cas, je pense, à Balance ton porc.
C'est ça.
Ou à la chanson d'Angèle, au choix. comment vous allez vous servir de la photo pour sensibiliser de la violence faite aux femmes ?
C'est un visuel dématérialisé déjà, on peut l'avoir sur le terrain mais aussi via les réseaux, les sites internet, donc c'est pour ça aussi qu'on a utilisé la photographie, c'est que ça permet d'être relayé par la suite. Ensuite la photographie ça permet de faire passer des messages forts, ça permet aussi d'être interprété de différentes façons en fonction des personnes qui regardent ces photos. Et des personnes qui se sont fait photographier également, qui veulent faire passer des messages aux autres, au public en fait.
Oui, parce que du coup, il y a eu un shooting en présentiel avec une photographe et un en distanciel. Il y a eu beaucoup de participants ?
On a eu un peu plus d'une cinquantaine de participations.
Donc ça, c'était le 8 mars, c'est passé, ça a été fait. Maintenant, les photos sont sur les réseaux sociaux, grâce un petit peu à Thibaut. Mais il y a aussi des expositions. Elles sont où, ces expositions sur...
Alors, l'exposition a lieu jusqu'au 6 avril au sein de la gare routière de Cholet.
D'accord.
Puis elle sera déplacée et exposée au sein du campus universitaire de Cholet jusqu'au 24 avril.
Ouais.
Mais il y a aussi une exposition au sein de l'Estua à Angers.
D'accord, qui est la fac dont vous êtes issu en
fait.
C'est
ça.
C'est la fac mère, la maison mère.
Exactement.
Des licences sciences sociales Vas-y Thibaut.
Parcours animation, social, éducatif, culturel et de loisirs.
Très bien. On voit que t'es dans le cursus. Tiens Thibaut, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que ce festival spectaculeux de l'Université d'Angers? Je crois que vous allez y participer également.
Oui.
Vas-y Timélia, si t'as plus d'infos.
C'est un festival qui a lieu d'habitude en présentiel, soit sur le campus d'Angers, soit sur le campus de Cholet.
Ouais.
Malheureusement, avec la crise sanitaire, ils ont décidé d'organiser toujours ce festival, mais de manière dématérialisée. C'est des initiatives étudiantes en fait, qui sont exposées, plusieurs arts différents, de la danse, du chant, des expositions comme la nôtre. Donc voilà, c'est un festival dont on fera partie à partir de mi-avril.
Mi-avril,
c'est ça.
On mettra ça sur nos réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a une photo qui vous a le plus marqué, qui représente vraiment ce thème de la violence faite aux femmes, plus que d'autres ou pas?
On a chacun, à vrai dire, nos préférences de photos.
Ouais.
Moi, j'en ai une où personne ne l'aime. Alors, lors du shooting, on avait plusieurs accessoires. Pour les gens, il y avait des cordes, du maquillage, du faux sang,
des voiles,
des miroirs, voilà, tout ce que, dans tous les cas, les gens se servaient et exprimaient pour eux ce que représentaient vraiment les violences faites aux femmes.
D'accord. Donc on peut découvrir tout ça sur les réseaux sociaux, sur les onglets de sites internet du campus de Cholet, de votre fac. On a presque fini déjà, malheureusement. Vous aimeriez conclure par quel mot quelque chose qui qualifierait au mieux le projet que vous portez ou ce qui vous a le plus marqué, Timélia?
Moi, tout simplement dire que le projet, c'est de la sensibilisation aux violences faites aux femmes. Mais il n'y a pas que ces violences-là. Tout simplement, des violences familiales, intrafamiliales, conjugales, les violences faites aux hommes aussi. Et voilà, on aimerait que ce projet perdure, soit renouvelé, soit mené par d'autres étudiants, des étudiants pas forcément en licence animation, mais que ce soit un projet peut-être interfilière pour apporter différents regards et voilà.
Et toi Thibaut, quel souvenir garderas-tu de ton projet ?
Là, je peux pas dire un moment qui m'a le plus déplu, parce que si on en est arrivé jusque là où on est, c'est qu'il y a eu un début et que ça a été un cheminement
oui.
Incroyable. Bon, voilà.
D'accord, très bien. Merci beaucoup Timélia, Thibaut. Je rappelle que vous êtes tous les deux en troisième année de licence sciences sociales, dont je tairai le... Allez, animation sociale, éducative, culturelle et de loisirs au campus de Cholet pour l'Université d'Angers, et que vous avez mis sur pied avec quatre autres étudiants le projet Balance ton shoot, qui sensibilise à la violence faite aux femmes. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Une minute pour l'emploi, la chronique conseil avec Pôle emploi.
Mon entreprise se porte bien et j'ai besoin de recruter de nouveaux talents. Bouchra, comment je fais pour rédiger une offre d'emploi vraiment attractive ?
Alors voici comment rédiger une offre qui va donner envie aux meilleurs. Alors évidemment, il y a les incontournables comme la description de l'entreprise, du poste et du candidat idéal. Ainsi que les choses interdites comme la discrimination. Mais mon conseil pour sortir du lot, c'est le style. Commencez par un titre percutant, quelque chose qui accroche, mais qui reste clair et court. Et n'hésitez pas à aller voir ce que font vos concurrents. Ensuite, essayez par le choix de vos mots de faire ressortir l'ambiance de votre entreprise, ce qui la rend attractive et unique. Et parlez des qualités humaines du candidat idéal, en plus de ses compétences et de son expérience. Il ne faut pas que votre offre puisse se confondre avec n'importe quelle autre. En résumé, travaillez votre annonce comme si c'était une lettre de motivation. Et n'hésitez pas à faire appel à la plus belle plume de votre entourage. À vous de jouer!
C'était Une Minute pour l'Emploi avec Pôle emploi. Plus d'informations sur le site uneminutepourlemploi.fr.
Encore un grand merci à Thibaut et Timélia d'être venus présenter leur projet sur Génération. J'ai partagé leur compte Instagram dans la story du compte de Radio G. Et voilà, c'est fini pour Génération. Si cette émission vous a plu ou si vous n'avez pas pu l'écouter en entier, pas de panique, vous pouvez la réécouter en podcast sur radio-g.fr, toujours. Et vous pouvez retrouver les différents intervenants d'aujourd'hui sur la page Facebook de Génération, cette fois, dont je vous partagerai tous les liens utiles. J'en profite pour vous dire que Radio G lance son appel à nouvelle émission pour le septembre 2021. Donc si l'aventure vous tente, n'hésitez pas. Pareil, renseignements sur radio-g.fr. Topette !